Patriarca, patriarca, patrie, patriarca, patrie.
La parole est mienne, pour les miens, pour que le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste.
Butch, cause butch are strong and sensitive. Butch are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight lies and whores.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille au masculin. Un garçon au féminin.
Bonsoir, vous écoutez Dégenré, l'émission féministe pour déranger. Alors ce soir, on va vous diffuser une émission qui a été concoctée par des copines féministes de Rennes, où en fait elles ont fait un journal qui s'appelle Pilou Pilou. Et ensuite, elles ont repris un certain nombre de textes pour faire une émission de radio. Alors vous allez voir, c'est une émission qui parle de sexe, de notre rapport au corps, nos rapports à comment on fait du sexe, sur à la fois dans les expériences qui peuvent autant être trash que chouette, que compliquées. Enfin, ça part pas mal de témoignages perso en fait, hein, c'est surtout ça. Et voilà, donc ça va durer une petite heure. Et puis ensuite, on reviendra pour quelques infos et entre autres vous présenter une revue féministe. Enfin non, une revue peut-être qui ne se dit pas féministe, mais nous verrons plus tard, et qui s'appelle Tumult. Mais pour l'instant, c'est parti pour l'émission Pilou Pilou. Bonne écoute.
Pilou Pilou.
Aujourd'hui, on va parler de sexe, de nos sexes et de nos manières de faire du sexe. Les textes qui suivent sont issus de la brochure Pilou Pilou, écrite collectivement par un groupe féministe de Rennes. Allez, c'est parti.
Pilou Pilou.
travers ce complot où seuls les clitos peuvent se pointer, des vagins et bouches en colère.
Les ex-sales frangines ont concocté ce méli-mélo de textes et d'illustrations très intimistes qui raccrochent une dimension politique.
Cette dimension politique est loin d'être dogmatique puisqu'elle reflète la diversité de nos vécus et points de vue, en lien avec les féminismes.
Cette brochure est née d'un groupe non mixte dans lequel nous avons, faute de réunion Tupperware,
conspiré autour des tartes aux poils et potions de sorcière pour tailler des jupes au genre et au patriarcat.
Réaliser des ateliers, gravures, pochoirs, autogynécologie, photos.
Tenu une table de presse dans les concerts alternatifs, squat et autres événements.
Participer à des marches de nuit non mixtes et féministes.
Organiser une projection en soutien des féministes polonaises qui luttent autour de l'avortement.
L'expérience partagée n'était donc pas seulement dans l'écrit, mais aussi dans ce qui s'écriait autour.
On n'a pas dans cette brochure prétention à dire une vérité, sachant que nous sommes majoritairement des nanas blanches,
de 20 à 40 ans,
hétéros, des fois lesbiennes, des fois bi,
plutôt précaires,
sans enfants, mais quelques avortons aspirés.
Notre vérité est donc toute relative et inscrite dans un contexte particulier.
Le partage des écrits sortis de nos tripes nous a parfois bouleversés, énergisés, chamboulés, énervés, en tout cas, ne nous a pas laissé de glace.
Si vous voulez pisser debout avec nous,
suivre la trace de nos moon cups sanguinolentes,
faire éclater la pustule du patriarcat,
vomir sur le machisme,
avorter toute nuisance sexiste,
égorger la lesbophobie,
tuer dans l'œuf toute autre domination,
tourner la page.
Rennes, janvier 2010.
Maîtresse Clitonimbus, sorcière, sourcière, jeteuse de sorts ou de ressorts, qu'importe. Contre les promoteurs diesel, vis et boulons, contre tout ce qui sert, contre tout ce qui certitude, contre tout ce qui ne sert à rien d'en serrer, mes armes sont des larmes, et de deviner que vous saurez rire ou pleurer. Soyez les bienvenus dans mon univers mail.
Qui de la grosse ou de la féministe? Mon corps dépasse les normes. Il n'est pas lisse. Quand je le regarde dans un miroir, ça dépasse là sur les côtés. Je me mets de profil pour avoir une image plus nette, aplatie. Non, ça dépasse aussi là, et puis là aussi. Je me caresse doucement les jambes. Ça dépasse et ça pique. Mon corps n'est définitivement pas lisse. Je me suis souvent demandé si j'étais féministe parce que j'étais grosse poilue, ou si j'étais grosse et poilue parce que j'étais féministe. Est-ce le fait de ne pas rentrer dans les normes qui me pousse à les combattre? Ou est-ce le fait d'être féministe qui laisse aller hors de ces normes qu'on tente de m'imposer? Qui de la grosse ou de la féministe? Je n'ai pas encore trouvé la réponse. Je parlais plus haut de laisser aller. C'est bien cela que me font ressentir les regards qui se posent sur mon corps, sur mes bourrelets, sur mes poils. Quelle négligence, quel manque de respect de soi et des autres! C'est ce que j'entends dans tous les regards, parfois même ceux de certaines copines. Alors qui de la poilue ou de la féministe? Pourquoi même des filles soi-disant libérées de toutes ces normes me jugent de leurs yeux assassins? À leurs yeux, je suis une mauvaise fille, une fille sale. Je ne suis pas une vraie fille. Non, je ne maîtrise pas du tout l'art de l'épilation. Non, je n'ai pas le temps ni l'envie de tous les enlever, mes poils de jambes, seins, ventre, chatte, visage, orteil. Non, je n'arrive pas à m'arrêter de bouffer quand le nombre rationnel de calories est atteint. Non, je n'arrive pas à bouger mon gros cul pour aller faire du sport. Alors si c'est ça, non, je n'ai pas envie d'être une vraie fille. Qui de la grosse ou de la féministe? Tout ceci m'écœure, mais pas au point de renoncer à ces normes. Cela ne m'empêche pas de m'épiler de temps en temps, pour n'être finalement jamais nette, lisse. Cela ne m'empêche pas de culpabiliser dès que je m'empiffre, pour n'être finalement jamais comblée, rassasiée. Alors qui, de la grosse poilue ou de la grosse féministe poilue? Je n'en sais toujours rien, et je vous emmerde.
Ma belle amante, j'ai ton odeur sur mon odeur où ne flotte pas le parfum des remords. J'ai sur mon corps toute la douceur et le bonheur de ces échanges où nos sèves se mélangent et sur mes fesses toute la tendresse dont tu sais faire preuve, mon cœur. Mon cœur, quant à lui, se serre, s'emballe, s'écœure de ce désir nouveau. Assaillant, incontrôlable, qui prend le contrôle. Quand tu effleures, caresses, frôles ces zones de mon cerveau en état de mort latente, soudain mise en éveil, ma belle amante à l'oreille parfaite. Jus.
Petite dissection de mon rapport à mon sexe. Enfant. Les souvenirs sont vagues, quelques images de masturbation nocturne, une sensation plutôt sereine. 12 ans. Les premières grandes questions sont arrivées. Je plonge les doigts et je sens comme une grosse boule, là au fond. Je me suis sérieusement demandé si c'était une tumeur ou quelque chose de ce genre. Je me suis arrangée pour que ma mère m'envoie faire ma première visite chez une gynéco. Tout est normal. Ah bon, c'est normal ce truc? Col de l'utérus, bof, si vous le dites. Je me souviens des livres lus quand j'étais gamine, pour nous parler de la sexualité. Livre de Babos, libéré post-68ard. Je n'y ai rien appris sur cette grosse boule au fond. Et encore moins que j'avais un clitoris. Pas si libéré que ça, les Babos, finalement.
Thank you.
14 ans. Le sexe, j'ai commencé jeune. Je me posais plein de questions sur l'orgasme. Je ne prenais pas tellement de plaisir. Lui, je ne m'en souviens plus tellement. Je revois un visage flou. Il était amoureux, plus âgé. On passait des journées entières enfermés dans sa chambre. Sa mère hallucinait un peu. J'avais arrêté de me masturber parce que les filles qui font ça, c'est des frustrées et des salopes. Peu d'armes pour découvrir ma sexualité. Ans. Trop vite, il y a eu cette soirée pourrie. Teuf de lycéen dans un pavillon de banlieue. Des bourges, la baraque était immense. J'étais saoule, j'avais dû fumer un peu aussi. Je sais plus. J'étais dans un état cotonneux. Ce mec, à qui j'avais roulé des pelles dans la soirée, me colle. J'ai pas envie, juste envie de dormir et qu'il me foute la paix. Lui. Il a la salive pâteuse du mec bourré qui veut tirer son coup. Je me souviens de son regard bovin, un regard vide de mec qui pense avec sa bite. J'ai dû dire non, deux ou trois fois, peut-être pas assez fort. J'ai pas crié, j'ai pas pleuré. J'avais pas vraiment conscience de ce qui se passait. J'avais pas la force de me débattre. C'était pas violent comme dans les films. Et puis, on avait flirté. Quand j'ai compris que quelque chose avait déconné, j'ai essayé d'en parler aux potes de l'époque. C'était un trop gros pavé dans la mare de notre adolescence. Il y a eu un silence gêné. Puis je n'en ai plus reparlé pendant des années. Ma politique a été, j'avance tête baissée. Cette expérience ne m'a pas empêchée de sortir seule en octambus, de faire des milliers de kilomètres en stop, de dormir chez des inconnus. Je ne me sentais pas en danger. Je ne l'ai jamais revu. Je ne sais pas ce que je ferais aujourd'hui si j'avais ce porc en face de moi. Adolescente, j'ai eu plein d'amants. Je ne me souviens pas de tous. Je n'avais pas l'impression de leur donner grand-chose. Je baisais uniquement avec ceux de passage. Les autres, je ne pouvais pas, même si je le voulais. Trop d'enjeux affectifs. Fermé, porte close. Ils appellent cela du vaginisme, eux. Les mecs qui savent, les psychos. Je m'emmerdais en baisant. Des mecs parlaient de meufs frigides, des vraies planches. J'avais accepté que je l'étais. J'essayais de le cacher, c'est tout. Je fermais les yeux, m'arrangeais pour kill, me touche le moins possible. Détestais que ça s'éternise. Je m'endormais en serrant les jambes, croisées jusqu'aux doigts de pied. Je ne faisais pas le rapprochement. J'avais oublié qu'avant, je ne le faisais pas. 18 ans. À cette époque, j'avais un petit problème gynécologique bénin. Le seul inconvénient était que je saignais, parfois en quantité importante, à chacun de mes rapports sexuels, le nombre de draps que j'ai pourris. Il n'y avait rien à faire, ça ne passait pas, malgré les différents traitements. Je ne faisais toujours pas le rapprochement. Ans. Enfin, j'ai eu une vraie histoire d'amour. On habitait un petit appartement. À celui-ci, j'étais fidèle. Pour la première fois, trop aspirée par la rencontre pour vivre autre chose. Au lit. Non, j'aime pas que tu me touches à cet endroit-là. Lui. D'accord, sans trop comprendre. Plus tard, il a amené un bouquin sur le sexe des femmes. T'as vu, cet endroit que tu évites, c'est ton clitoris. Toute conne, je découvre à 20 ans que ce truc-là, c'est mon clitoris, sans blague. Merci pour l'info, hein. Mais j'ai pas pour autant envie que tu y touches. Pourquoi ? Parce que j'aime pas, c'est tout. 22 ans. J'en étais presque arrivée à la conclusion que l'orgasme était un mythe. Quand ça m'est tombé dessus, un peu par surprise. Je suis tombée amoureuse aussi sec. J'ai recommencé à me masturber. J'avais décidé d'arrêter de me faire chier au pieu. J'expérimentais. 24 ans. Cette démarche ne pouvait se faire sans une acceptation de ce qui m'était arrivé. Cela signifiait accepter d'avoir été victime, d'avoir été assez conne pour que ça m'arrive. Ce n'était pas facile. J'ai fait mon coming out. Ce soir-là, dans mon lit, j'ai tout revu. Le mec, la piole, tout revécu dans les moindres détails. Depuis, je ne croise plus les jambes. Systématiquement pour m'endormir. Toute seule, je prenais mon pied, avec les hommes par intermittence. Pour le moins, j'évoluais. Puis, j'appris que ce mec, dont j'avais été éperdument amoureuse, dans les bras duquel je m'étais abandonnée avec une sorte de reconnaissance aveugle, ce clébard avait violé une copine. Juste avant d'entrer dans ma vie, je me suis défoncée, en quelques mois plus que durant toutes les années précédentes, à ne plus tenir debout, ni assise. Pour ne pas penser que la vie pouvait être aussi vicieuse. Pour noyer ma colère, mon envie de briser le silence que ma copine a décidé de tisser autour de cette histoire. J'avais envie de gueuler à la face de tous que ce mec est un violeur, un porc. Always feel this way, and the time that I was sufferless is when I never have to wake. Wandering stars, for whom it is reserved, the blackness, the darkness forever. Wandering stars. C'est une grossesse accidentelle qui m'a rappelé à ma sexualité. Habiter ce corps déserté jusque-là. Abandonné plus jamais. Avec les hommes autorisés à jouir plus jamais. Malgré tout, mon corps pouvait accueillir la vie, tellement improbable, tant d'années à me convaincre qu'il n'était qu'un désert. Je ne l'ai pas laissé faire son nid, mais je lui ai donné un nom. Je pense à lui parfois, le remercie de sa visite. How can I believe this? quelque temps plus tard, j'ai eu envie. Je m'étais sentie tellement vivante. Pourquoi ne pas ? J'ai eu envie d'un enfant avec lui. Il a dit oui. Comme c'était bon de faire l'amour. Les mois sont passés. Tempo de femme, noyée entre l'espérance et l'angoisse. Chaque fois l'attente et le sang. Séparés finalement, le jour où le silence a remplacé les cris. Le temps s'est arrêté, le cycle aussi. L'évidence dans le corps de celle qui a déjà connu cet état. Enceinte enfin, séparée pourtant. Il remplit bien son rôle, garçon absent. Il peut choisir d'être ou non, de s'extraire. Moi non, tellement seul avec. Impossible de se soustraire. Pas le temps de la réflexion, délai légaux, pression. S'il faut que je rentre pour que tu avortes, je te préviens, je vais pas être tendre. J'ai avorté le jour de mon anniversaire. Je l'ai fait parce que je voulais qu'il arrive à la vie avec un père qu'il aime et qu'il attende, pas comme moi. Cette absence laisse trop de failles dans la construction d'un être. Je lui ai parlé à l'intérieur. Je savais qu'il savait. Jusqu'au dernier moment, j'ai été dans l'ambivalence. Ce fut long, des heures d'attente avec ce mal indescriptible, comme s'il ne se décidait pas à sortir. À la fin, pas de sentiment de délivrance, juste l'envie de le retenir et les larmes. Je l'ai mis au pied d'un arbre, je l'ai touché, je lui ai dit au revoir. Je suis retournée chez moi, avec quelques kilos de moins et un énorme vide à l'intérieur, qui laissait passer les courants d'air, un froid impossible. De longs mois de pleurs, à chaque retour du sang, mémoire corporelle, que j'ai cru indélébile. Plus tard, j'ai compris le lien qui m'attachait à ce désir d'enfant. J'ai compris l'importance de ma propre histoire, du déni de grossesse de ma propre mère, de son abandon, dans ma difficulté à prendre cette décision. J'ai compris le sens de tous ces dessins, films, histoires, où je parlais de cela sans en avoir conscience. J'ai accepté enfin. Maintenant, je serai libre, peut-être, de raconter d'autres histoires que celles de sexe, d'enfantement et de mort, plus douces, je l'espère. Le temps a passé, année nouvelle, aurée d'une vie nouvelle, nouvelle rencontre. Est-ce moi qui entre dans ton corps ? Ou est-ce toi qui rentre dans ton corps ? Larmes, tendresse, rencontres qui reconstruisent. Tu mets des mots, là où je n'avais que l'émotion nue, muette. Je renais dans cet échange. Combien de renaissances une femme peut-elle connaître ? Je suis morte dans ma féminité tant de fois. Je renais pourtant chaque fois, plus forte. Quel est le sens de ce qui n'en a pas ? L'exercice de la vie. Regardless of what they say, how can it feel this wrong? Aquarium, je tirerai la chasse et chasserai tous mes regrets. À Marie.
Depuis le début de ma vie sexuelle, vers 16 ans, j'ai toujours envié le sexe masculin. Il m'a longtemps paru plus beau, plus fort, plus attrayant. Plus de courbes, plus de matière, plus familier aussi. Oui, bizarrement, il m'était moins étranger que le sexe féminin. Enfin bizarre, je ne sais pas. Après tout, des bites, on en voit représentées partout. Peinture, sculpture, littérature, cinéma. Et j'en passe. Des clitoris? Non. Nous, on doit se contenter d'un trou béant et obscur qui reste bien caché. L'inconnu. Et du coup, j'ai souvent fantasmé d'en avoir un de pénis. Si seulement je pouvais troquer mon vagin, dénué de tout intérêt, contre un exemplaire de cette fabuleuse verge, ne serait-ce que 24 heures. J'en ai fini avec ce fantasme. J'ai redécouvert mon sexe avec un homme. Ce type est resté des heures la langue pendue entre mes deux cuisses. Timidement, au début, il observait mes réactions au moindre de ses gestes. On pourrait presque dire que sa curiosité a remué mon émerveille. Des courbes, de la matière, j'en avais moi aussi. Je n'avais pas un trou béant et obscur. Il se dessinait ici tout un paysage.
Pilou, Pilou.
Pilou, Pilou.
Pilou. Ah, oh, Pilou.
Mon beau Pilou. Oh,
Pilou.
La première fois que je me suis masturbée, je ne sais pas trop si j'ai trop envie de raconter l'histoire, car c'est un moment voluptueux et satouilleux se mêle la sensation d'interdit. Je me rappelle d'être cachée sous les couvertures, dans le lit de mes parents, afin de faire la rencontre avec ma main gauche, devenue ma meilleure amie pour les voyages orgasmiques. Je me rappelle la sensation de sécurité, de la chaleur, des vertiges corporels et l'histoire du petit lapin qui mange des souffleurs et qui grossissait jusqu'à l'explosion. Et c'était l'idée de ce lapin voleur de sous qui me rendait folle. Avec les années qui passaient, j'ai perdu petit à petit la liberté d'évoquer la tempête clitoridienne. Cette connaissance ancestrale s'envolait face à la force d'une moralité périmée depuis des décennies. J'ai mis vraiment longtemps à me rappeler des pouvoirs de ma main gauche.
Des pouvoirs de quoi?
Des sous.
Souffleur.
Le souffleur.
Le souffleur. Les
souffleurs. I got too many men. I change like the weather every now and then. I got too many men. I pick one, then another, and I'm gone again. I started out with one, till I met his old
Entre mes cuisses. J'aime donner le rythme, emmener, entendre les hommes gémir lassivement, sentir que je peux m'arrêter là, que le plaisir dépend en grande partie de moi. Être la musique qui emmêle les corps, les fous, goûter les frissons des autres corps. Effleurer, branler, goûter. J'initie, jubile en expliquant la part mécanique de la jouissance, la mienne, la sienne. Avec douceur et doigté, parvenir à faire des corps leur sensualité alors qu'ils s'en croient dépourvus. Parfois, à force d'attention à mes amants, ma jouissance s'efface. Peu importe, je sais que le temps vient où je ne me concentre plus, où je m'abandonne. Avant cela, je vous emprunte la responsabilité de mener. Beaucoup de mes amants ne supportent pas l'idée de pénétrer en étant au-dessus, voyant dans la position du missionnaire une domination. Certes, Lilith a quitté le jardin d'Éden car elle en avait assez d'être en dessous. Comme il serait doux ainsi, si la posture était l'essence de la domination. Il suffirait de ne jamais la pratiquer, de l'extraire de notre vocabulaire sexuel pour être un homme correct et une femme insoumise. Nous ferions alors du sexe politiquement correct. cette édulcoration est non seulement assez peu intéressante à généraliser, mais aussi nocive. D'un geste donnant bonne conscience, de l'autre stigmatisant celle qui aime être pénétrée. Et pourquoi ne parle-t-on jamais de ce que fait notre vulve lorsque nos sexes se caressent à l'intérieur ? Mon sexe enserre le tien, l'englobe, le stimule de milliards de manières, de parcelles de peau, de liquide que je crée. Et ainsi, je suis extrêmement loin de la passivité qui est censée être l'apanage de celle de mon sexe. Ça y est, je sens que vous me jugez. Je m'en fous, je suis ainsi et je sais ce que je fais. Mais je vais quand même vous raconter l'histoire de mon sexe colonisé. À 14 ans, je croyais au prince charmant et je ne t'avais jamais regardé en face. La seule chose dont on parle à ton sujet, mon sexe, c'est l'appareil reproducteur. Je ne vois d'ailleurs pas comment placer dans le corps féminin ce dessin charmant et ses trompes. J'ai du mal à dire mon histoire, comme si elle était individuée, tant la trame me semble similaire pour bon nombre de femmes. Non, je ne raconte rien de nouveau. D'ailleurs, toi, lecteur avide de sensationnel, mieux vaut détourner tes yeux de ce texte, de cette brochure. Non. L'histoire que je raconte est triste par sa banalité. Nous sommes temps. Et c'est en m'en rendant compte que les craintes d'écrire se sont fait moins brillantes. À 14 ans, on cherche le prince charmant. Je pensais l'avoir trouvé en la personne de Thomas. Je me conviens que cela doit se faire puisque l'on est ensemble, lui m'aidant par un chantage affectif subtil. Je te donne à lui. Je me souviens de cette nuit, des chiffres quartz rouges qui défilent avec une lenteur assassine. Et il te fouille, mon cher sexe, t'esquintant un peu plus à chaque coup de rein. Le désir humide n'étant pas conciliable avec comment je te donne. Une autre nuit me revient, moi sur le dos, dessous, un matelas de cailloux. Lui saoule, encore une fois il fouille. Va-t-il enfin trouver ? Je pleure en silence pendant qu'il besogne. Je ne sais plus à quoi je pense, mais certainement pas à ce qui se passe là. Pas d'aiguille pour décompter le temps. Je suis encore restée un an avec Thomas après cette nuit. Peu importe, mon corps, tes souffrances. L'important était que je sois avec cet homme, puisqu'ainsi doit être fait. Souvent, il fourrait ses doigts en toi, rappant la douceur de ton intérieur. Depuis, je les hais, ces doigts inquisiteurs, peu importe la main à qui ils appartiennent. Je voyais un intérêt à cette pratique. J'étais tant coupée de toi qu'il s'agissait de la seule manière de savoir si je mouillais, si je désirais. J'ai mis 8 ans à poser le mot « viol » sur ce qui s'était passé. Et c'est justement grâce à ce genre de texte que je suis parvenue à nommer cet acte. Je me suis rendu compte que lorsque je disais « je me suis fait violer », en fait j'aurais pu dire « nous nous faisons violer ». Après cette relation, j'ai continué sur ma lancée, te considérant comme un moyen d'échange, une sorte de prostitution affective. Je faisais du sexe un service à remplir. Il fallait les laisser te pénétrer, tant j'étais convaincue d'être vile, incapable d'être aimée pour celle que j'étais, pour autre chose que comment je te donnais. Un jour, j'ai décidé que j'en avais assez. Que je souhaitais rencontrer un homme qui saurait te parler, alors que moi-même, je ne t'avais jamais regardé. Un homme qui allait me réconcilier avec cette partie de mon corps. Le jour même, Lilian devenait mon amant. Il m'a fait jouir. Il m'a léché amoureusement, me faisant bander nez à nez, son visage enfoui dans mes replis. Il m'a dit que j'étais une vulve magnifique, une fleur qui s'épanouissait en se gorgeant de désir. Je murmurai, « Comme toutes les autres vulves !» Lui me répond non, toi particulièrement, fleur palpitante. cette histoire s'est finie. Car comme il faut le savoir, le prince charmant n'existe pas. Me laissant rabibocher avec tout mon corps, que j'osais regarder en face, les jambes écartées, me disant que j'étais belle de la tête aux pieds. Mon sexe a été colonisé non pas par des bites, mais par des idées. Celles que, quand on est en couple, on doit faire. Que faire du sexe veut dire pénétration. Que quand on provoque une érection, il faut assumer pénétration, sinon on est une allumeuse. Que l'homme a plus de désir que la femme. Que je n'avais pas de désir pour les filles. Que les hommes jouissaient à chaque fois qu'ils éjaculaient et que les femmes n'éjaculaient pas. Combien encore d'absurdités seront proférées sur notre compte? Combien de femmes incorporeront ces conneries à leur vie, se flagellant avec des armes conçues par d'autres pour les enfermer, les couper de leur force? J'aime les corps. Les toucher, les goûter, les sentir tressaillir. Pendant un temps, je me suis privée, sans y réfléchir, jusqu'à cet instant où... Me voilà, paupières closes, à découvrir, abandonné sans voir, le tumulte de mes quatre autres sens. Dans cette chambre où actuellement j'écris, un homme me caresse de tout son corps, son sexe en moi. La surprise écarquille mes yeux, ouverts. C'est la première fois que je les avais fermés pendant un rapport. Mon corps encore chaud de notre jouissance commune, mon esprit s'emballe. Je sens que je saisis quelque chose de manière si fulgurante que je ne sais par où commencer. Il me semble entendre un déclic, un son dans la compréhension du monde que je suis. Que de moments me reviennent en rafales compréhensives, comme si à cet instant, l'éclairage nouveau dû à je ne sais quoi illuminait ma sexualité. J'espère que toi qui me lis en as déjà ressenti de ces moments qui éclatent en bulles de pureté, transformant tout sur leur passage. Des liens se dessinent en fils incandescents qui se propagent en un centième de seconde. Je ressens alors une osmose, une sensation d'être immense, éradiquant ainsi cette vieille et infâme distinction entre corps et esprit. Je suis brûlante, vibrante et tranquille. Mon corps capte et résonne avec la moindre parcelle de ce qui m'entoure. Je suis plus vivante que jamais.
La 4-4-4 que donc. La 4-4-4 que donc. La 4-4-4 que donc.
Vient ensuite le temps où je réfléchis seule, tentant de recoller les bribes de compréhension à l'aide de la rationalisation. Cet ami, la raison, me fait perdre tant de poésie, en reconduisant cette dichotomie corps-esprit-ennemi. Maigre est donc la récolte que j'exhibe ici, et voilà ce que j'ai saisi. Je ne fais jamais l'amour sans voir. Ceci est une manière de garder le contrôle, de ne pas faire entièrement confiance à l'autre. Mais la forêt qui est cachée derrière cette constatation touche les tréfonds de mon désir. Les hommes qui me donnent envie sont tous du même acabit. Je les débusque et reconnais aussi sec, coincé entre un radiateur et la fenêtre. Un regard rêveur sur l'en dehors, engoncé dans des corps dont ils ne savent que faire. Je prends des amants moins expérimentés que moi. Ainsi je ne me donne plus, je maîtrise la situation. Comment pourrait-il s'imposer, puisque j'en sais plus sur mon désir et parfois sur le leur qu'eux. Je mène la danse, en mêle les peaux, donne le rythme sur lequel j'aime vibrer. C'est exactement ça. Je mène la danse. Après des siècles où les femmes m'ont appris à écouter, à danser comme on les dirigeait, moi par revanche, je fais dans la pédagogie. Mettant ainsi fin à 6 années de sexualité dominée, bouffée, estropiée par tant de clichés. Je parle de revanche, mais ce n'est pas exact. Il n'y a pas de revanche, ou du moins pas de volonté de rendre coup pour coup. Mais plutôt une stratégie que j'ai mis en place, un plus jamais ça en acte, irréfléchi mais vital. J'ai à un moment malaxé mon désir pour qu'il ne me mène plus à l'abattoir. Je pourrais me juger, mais je n'y ai même pas songé. Je me suis plutôt dit que j'étais belle et digne. Je repense à toutes ces stratégies déjà intégrées, comment j'ai appris à ne pas sortir le soir, à ne pas porter de jupe alors que j'aime goûter le vent claquer sur mes cuisses. et à ce grand et lourd manteau que l'on porte pour être tranquille, pour en dessous s'y vêtir comme on veut. Alors oui, en termes de sexualité, il y a des stratégies. Cassons ce délire du sexe comme lieu de pure spontanéité et jouissons comme on en a envie. Avec cette attention au compromis que l'on devra toujours faire tant que ce monde ne sera pas à terre. Faisons-les de manière à ce qu'ils ne se retournent pas contre nous. Nous sommes belles, fortes, multiples et indomptables. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, ce que j'ai découvert. Mon premier réflexe est de remercier l'homme à mes côtés, et encore de goûter à ce corps qui m'inspire confiance et désir irrassasié. Peut-être que si nous nous aimons encore, d'autres déclics m'éclabousseront au point d'en devenir lumineuse. Mais là, j'ai cru au mythe de ce doux prince charmant. Car rien n'est plus difficile que de faire de lui à nouveau mon amant. Et puis je me rends compte qu'il est pour si peu dans cette révélation. Je me suis rencontrée moi-même en fermant mes paupières. When his best friend fell for me, then I finally made it four. When a fine one moved next door, I got too many men. I got them tall and short and fat and thin. I got too many men. I pick one, then another, and I'm gone again.
Écris au lieu d'aller à la CMU. Tes lèvres ondulent sous tes mots. L'envie me vient de les saisir, de mordre ta lèvre du dessous, d'y planter mes canines jusqu'à voir perler ton sang. Goutte dont la rondeur redondera avec celle de tes lèvres. Je me vois déjà incisive. Ou bien est-ce moi qui, forte de désir, mordille mes lèvres, les rendant écarlates? Bref, de chastes baisers, sans nous dénuder. J'imagine comment sera ton sexe. Magnifique. Ocre violacé d'un rouge pimpant érigé avec force. Le désir tend, arc légèrement ce lien entre prépuce et gland, donnant ainsi de la rondeur à ce fruit, joufflu, fendu en son milieu. Les veines strient les contours, les agrémentent, sinueuses, bleutées, où le sang bat. L'ourlet du gland bien dessiné donne envie d'y promener la langue, pointée pour l'occasion, sentir mes lèvres enserrées d'une douceur ferme ta peau. Un va-et-vient qui t'amène jusqu'à l'éclosion, m'en délecter, non pas du sperme âcre en bouche, mais de la jouissance, l'absorber pour te la rendre démultipliée. Je résonne à l'unisson, à cette différence près, tes spasmes contrastent avec mon calme.
Jésus.
Et si je buvais à ta source, ton être tout entier s'écoulerait-il en moi? Ferais-je mienne ton arrogance et ta beauté si j'avalais ta semence? À tes lèvres pendues, délices tant attendues, je m'enivre de tes essences. Mécanique des fluides, théorie des vases communicants, en extase je patiente. La source, loin de se tarir, s'étend, de loin en loin, de vague en vague. Puissant le grondement, monte et démonte tous mes doutes, un court instant. Ma jeunesse retrouvée à ta source élégante d'éternelle demoiselle, dilettante de l'amour qui se donne toujours, sans jamais demander en retour que de chastes baisers sur ta chatte excitée.
Jus.
Ah.
Oui.
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 Tant pis pour les voisins.
Elles vont nous péter la gueule.
Pilou, pilou.
Voilà, c'est fini. Pour des retours de tout poil, vous pouvez nous envoyer un mail à piloupiloucrew@gmail.com. Donc piloupiloucrew, C-R-E-W.
Vous écoutez toujours Dégenré, l'émission féministe pour déranger, sur 97FM Radio Kaleidoscope à Grenoble. Alors, maintenant, on va vous passer une interview d'une des personnes de Timult, qui est une revue de récits, d'analyse et de critiques qu'on aime bien, et dont le numéro 3 vient de sortir. Et après, on vous parlera un petit peu plus de cette revue.
Alors, le journal, ou la revue, je ne sais pas trop comment il faut dire, Timult, elle est née il y a 2 ans, à peu près. Enfin, en tout cas, ce projet-là, bon, il est né, le projet, il date d'avant. Au départ, c'est un groupe de copines qui fréquentent un peu les mêmes réseaux politiques, liés à des luttes sociales, sur le logement, sur plein de choses, en fait. Des luttes liées à l'émancipation et tout ça. On se retrouvait et souvent on se rendait compte qu'en tant que fille, en tant que féministe dans ces luttes, on avait des idées qui se rejoignaient beaucoup. Et ces dernières années, on a fini par se dire, mais en fait, elles n'ont pas beaucoup de place, ces idées. Et elles n'ont pas beaucoup de place parce qu'on nous enferme tout le temps dans le champ d'un féminisme qui serait exclusivement lié aux questions de genre, de sexualité, de violence envers les femmes, de relations hommes-femmes, d'hétérosexualité, enfin bref, tout ça. Et bien sûr, ces questions-là nous intéressent, mais nous, on se rendait compte en militant, en s'activant dans plein de luttes, que nos idées féministes, en fait, elles avaient un impact sur plein de choix qu'on faisait et plein de manières qu'on avait de mener ces luttes, et pas uniquement avec des femmes, quoi. Donc, à un moment, on s'est dit, ah, et si on faisait une rencontre entre femmes féministes investies dans des luttes variées pour échanger, quoi, sur toutes ces questions-là, de stratégie, sur quel terrain on lutte, comment, quelle solidarité, quelle vision on a de tout ça, bien au-delà des questions, disons, attendues du féminisme. Et cette rencontre s'est pas faite pour diverses raisons, au moment où on l'avait décidée, mais est née de cette rencontre ratée, l'idée de plutôt faire un journal. Enfin, comme une seconde étape, où on s'est dit, ah bon, peut-être ne faisons pas 10 jours de rencontre, mais plutôt un journal à large diffusion qui parlerait des luttes et des conditions pour lutter, et qui serait écrite par des personnes partageant une culture politique féministe. Mais pas sur les sujets attendus du féminisme, ou en tout cas, pas exclusivement. Voilà, ça c'est le fond, je sais pas, l'orientation de Timult au départ. Et l'autre constat qu'on a fait quand on s'est penché sur ce projet, c'était qu'il y avait presque pas de femmes qui écrivaient, c'était principalement des hommes, et que nous-mêmes, la plupart, on n'avait jamais trop écrit, et qu'on voyait pas du tout comment faire, et qu'on se sentait vraiment très peu capable. Et du coup, on a beaucoup parlé de comment est-ce qu'on écrit, et qui est-ce qui dicte un peu quel est l'écrit politique autorisé, légitime, sérieux, et quel est l'écrit inintéressant, secondaire, et tout ça. Et donc voilà, on est parti aussi sur un projet autour de l'écrit pour nous apprendre à écrire comme ça nous plaisait, essayer d'inventer des manières d'écrire qui nous plaisaient, et surtout des choses à lire qui nous plaisent. Parce que en échangeant sur tout ça, on s'est rendu compte aussi qu'on était nombreuses à presque pas lire de textes politiques qui paraissent dans la presse, qui paraissent dans des brochures et tout ça. Parce qu'en fait, ces textes nous faisaient chier, quoi. Que souvent, ou en tout cas, des fois, on n'essayait même pas de les lire, quoi. Ils nous paraissaient tellement d'emblée complexes, abstraits, etc., qu'on avait plutôt tendance à aller regarder des films et lire des romans que de lire des grands bouquins de théorie politique. Du coup, on s'est dit, ah, on voudrait s'aider à lire, on voudrait se donner les moyens de lire et d'écrire, et de lire et d'écrire aussi ces choses-là, mais surtout, on voudrait inventer des manières d'écrire qui nous semblent plus agréables et plus accessibles. Du coup, pour faire tout ça, l'idée, c'était de monter une sorte de comité de rédaction qui a un peu, une ligne politique assez forte, qui choisit des textes, qui invite des gens à écrire en fonction de nous, nos affinités politiques et notamment de ce féminisme.
Vous la définissez du coup, justement, cette ligne politique, ou tu pourrais la définir comment?
En fait, c'est surtout que c'est un groupe affinitaire de personnes qui a l'habitude de lutter ensemble, ou en tout cas qui a des terrains de lutte communs, et puis avec des positionnements politiques, je sais pas, pour résumer, on pourrait dire anti-autoritaire, anti-capitaliste, féministe, ou plutôt des visions autonomes, quoi, c'est-à-dire pas reliées à des partis politiques ou des syndicats, mais qui cherchent, qui partent de ce que vivent les personnes et où elles en sont, et comment elles vont s'organiser avec les gens qui sont autour d'elles et en fonction de ce qu'elles ont besoin elles, donc de s'autodéterminer, de se positionner pour elles-mêmes, donc voilà, des dynamiques politiques, je pourrais dire autonomes. Et après, ça couvre énormément de choses différentes, voilà. Et donc pour choisir ces textes, donc l'idée c'est de se regrouper à quelques-unes et vraiment de composer le journal ensemble et nous-mêmes d'écrire quelques textes, d'apprendre à écrire, mais surtout d'organiser des ateliers d'écriture, d'inviter des personnes à écrire, de si des gens nous contactent et nous disent « Ah, tel sujet m'intéresse, mais je sais pas trop comment faire », de leur proposer d'écrire avec elles, ou alors de mettre en contact des gens qui travaillent sur le même sujet pour leur proposer de se regrouper pour écrire ensemble, ou de mettre en place tout un ensemble de, je sais pas comment on pourrait dire, presque de protocoles pour faire circuler des textes, s'encourager... Et avec en même temps cette idée que plein de gens écrivent et sont capables d'écrire qui ne le savent pas, donc de voilà, rendre ça accessible, et en même temps d'être exigeante, quoi, de se dire bah on est là pour bosser, on va se donner des moyens pour essayer de faire des choses un peu abouties. En tout cas, nous on pense que les écrits et les pensées critiques et les pensées un peu argumentées et complexes, c'est des supports aux luttes et c'est des choses importantes, et on avait envie de se les réapproprier, quoi. On n'avait pas envie que ça reste dans les mains de toujours les mêmes leaders syndicaux, de toujours les mêmes types dans les groupes qui ont une grande gueule ou qui sont ceux qui écrivent tout le temps, etc. Pour parler un peu de préciser notre orientation politique, ou on pourrait même dire notre stratégie, puisqu'on pense ce journal et le fait d'apprendre à fabriquer des textes politiques comme des choses qui participent à la lutte, quoi, ou aux luttes, on a décidé d'avancer masqué. C'est-à-dire qu'on s'est bien rendu compte que le féminisme que nous on porte, et qu'à plein d'occasions on porte ouvertement et avec, je sais pas, joie et conviction, on s'est bien rendu compte qu'il y a des gens que ça touche pas du tout, qui sont réfractaires a priori parce qu'ils savent pas ce que c'est, ou que, enfin voilà, le féminisme c'est nul, c'est hystérique, c'est je sais pas quoi. Et du coup, à côté de nos engagements politiques féministes plus ouverts, dans ce projet-là, Tumulte, on a décidé qu'on n'allait pas brandir de drapeau. Et on n'allait pas dire qu'on était particulièrement féministe. Parce que l'idée, c'était qu'en fait, on partage des idées et que les gens se bloquent pas avant même d'avoir essayé de les lire. Ensuite, dès qu'on lit un peu de manière approfondie, je vois pas comment on peut passer à côté du fait que les personnes qui écrivent partagent cette culture politique-là, parce que un des partis pris importants dans les textes, c'est qu'on essaye de dire d'où on parle, de se situer, d'expliquer d'où ça vient. Et l'idée, c'est que comme ça, ça fait des textes avec lesquels les lecteurs peuvent mieux choisir quelle distance ils ont. C'est-à-dire, si on sait pourquoi une personne, elle parle de telle et telle manière, qu'est-ce qu'elle a vécu, ou quel est son bagage politique, ou bref, historique, ou je sais pas quoi, ça fait qu'on peut mieux choisir dans ce qui est dit dans le texte, ce avec quoi on adhère, ce qui nous va pas, ce qui est le point de vue de la personne, mais qu'on va pas suivre, etc. Enfin, c'était un truc important. Donc, je pense que dans les textes, on voit que les personnes, elles ont entre autres un bagage féministe. Mais c'est pas annoncé, c'est... Voilà. Et ça vaut pas uniquement pour le féminisme, mais pour d'autres convictions politiques qu'on partage autour de l'anti-autoritarisme, ou on pourrait dire de l'anarchisme, ou de l'autonomie, ou autre chose comme ça. Mais ça va aussi au-delà, c'est-à-dire qu'à des moments, on a décidé de publier des textes qu'on nous proposait, qui, par exemple, ne portaient pas ces convictions-là, quoi. Mais parce qu'elles nous semblaient intéressantes par ailleurs, ou complétaient d'autres textes, ou... Enfin, il y a quand même entre nous un goût de la polémique assez poussé. Enfin, on est très souvent en désaccord et ça peut être assez tendu. Parce que sur chaque texte, on s'arrête dessus, on réfléchit, on dialogue avec les personnes qui les ont écrits pour voir s'ils peuvent les transformer. Et donc voilà, ça nous arrive. Ça nous est pas arrivé, je pense que ça nous arrivera pas de publier des textes frontalement antiféministes, par exemple. Mais, ou pro-autoritaire, ou je sais pas quoi. Mais je pense quand même que ça fait des textes sur un spectre assez large, voilà, qui dépasse nos convictions à nous. Et puis alors, il y avait cette question qu'on nous pose souvent, mais alors si c'est que des personnes féministes, est-ce que c'est que des femmes, est-ce que c'est un projet en non-mixité, etc. Alors nous, on a choisi entre nous de ne pas utiliser le terme non-mixité, qui n'était pas assez précis, mais plutôt le terme de mixité choisie, dans le sens où ce terme-là, donc en gros, les personnes qui partagent cette culture politique féministe de manière active, c'est principalement des personnes femmes, lesbiennes, trans. Mais l'idée, c'était qu'en utilisant le terme mixité choisie, on rendait beaucoup plus compte du fait qu'il y a une diversité de personnes entre nous, quoi. Qu'il y a effectivement un critère affinitaire restrictif, mais des gens très différents, et notamment dans leur identité sexuelle et de genre. Et donc ensuite, forcément, on a reçu quelques mails, parce qu'on a eu pas mal de propositions de textes, et donc notamment des gens qui nous ont écrit en disant « Je vous envoie un texte, mais si j'étais un garçon, vous le publieriez ?» C'est assez énervant de recevoir des demandes comme ça. Enfin, en tout cas, moi, la première fois que j'ai reçu ça, j'ai eu une réponse très très énervée, où j'ai dit « Bah écoute, nous, notre choix, c'est de partager cette publication, enfin de fabriquer cette publication avec des personnes qui partagent cette culture politique-là. Si c'est pas ton cas, mais que tu te trouves un bon pseudo, qu'on te voit que par mail et que ton texte il nous plaît, bah, qu'est-ce que tu veux, on le publiera. Et après, ce sera à toi avec ta conscience qui saura si tu as joué le jeu du projet qu'on propose ou pas. Enfin, je veux dire, on flippe pas les gens. Et je pense même, dans une certaine mesure, si des hommes nous proposaient des textes qui nous touchent et qui font sens, c'est possible qu'on décide de les publier, parce que c'est du coup cette histoire de mixité choisie, on la porte en tout cas d'une manière relativement ouverte, et ce qui compte, c'est les idées aussi qui sont diffusées. Voilà, mais en tout cas c'est possible, c'est vraiment possible de nous proposer des textes, de nous proposer des images, ou de nous dire « Ah, j'ai une super idée !» Mais j'ai jamais écrit de ma vie et je suis absolument pas capable. Puis on réfléchit ensemble à divers stratagèmes pour apprendre à écrire, ou essayer en tout cas.
It's a lazy afternoon, and the farmer leaves his wheat.
Le numéro 3 est sorti en septembre, et le prochain numéro, si tout se passe bien, le 4 sortira en février. Nous ne savons pas encore de quelle couleur il sera. On peut se le procurer dans pas mal d'endroits. On peut se le procurer à la cantine épicerie des Bas-Côtés, rue Nicolas Chaurier. On peut se le procurer rue des Violettes à Antigone, quand la bibliothèque est ouverte. On peut aussi se le procurer au local autogéré rue du Pont. On peut se le procurer également à la bibliothèque féministe de la Capuche. Et après, on peut s'abonner en écrivant à Tumult, donc soit par mail à timult@riseup.net, riseup.net, ou en écrivant à l'adresse postale Timult, 15 rue Jacquet, 38 000, Grenoble. Et c'est aussi possible de le trouver dans plein d'autres villes, en France, en Suisse et en Belgique. Et donc, pour savoir s'il y a un point de vente près de là où vous le cherchez, faut nous écrire et puis on vous oriente vers les personnes qui le diffusent.
Come spend this lazy afternoon with me.
Alors vous écoutez toujours Dégenrer, l'émission féministe sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Et après cette présentation du projet de la revue Tumult, on voulait vous parler un peu du dernier numéro, donc le numéro 3 qui est sorti en septembre 2010, et un peu du coup de qu'est-ce qui nous avait plu
Et pourquoi ? Eh ben, on vous conseille de le lire, quoi. Alors, dans ce numéro, déjà, il y a un dossier sur les identités. Alors, les identités, ben, ça peut être quelque chose qui est compris de différents points de vue. Ça peut nous renvoyer à des trucs plus négatifs, les étiquettes qu'on nous impose, par exemple, être une femme douce... jolie, etc. Enfin, des choses qui nous enferment, en fait, dans lesquelles on se retrouve pas. Ça peut nous faire penser à ben, contrôle d'identité, identité nationale, tous les trucs puants qu'il peut avoir à côté d'une identité qui nous est imposée et qui est faite ben, plus pour imposer des rapports de domination. Et en même temps, identité, ben, ça peut aussi se référer plus à de l'autodéfinition. Donc, des choses qu'on a envie d'affirmer, qu'on a envie de nommer, de choisir, ça peut renvoyer du coup plus bah, à des identités qui soit sont minorisées, soit bah, sont stigmatisées. Par exemple, bah, moi, si je me nomme Gwyn, c'est pas une identité qui m'est imposée, c'est plutôt bah, le fait de nommer cette identité Gwyn. Ça permet de politiser... de critiquer un monde hétérosexuel où, de fait, tant qu'on n'a pas dit le contraire, on est présupposé comme hétérosexuel, par exemple. L'identité, ça peut aussi renvoyer ben, une idée d'identité sociale. C'est-à-dire que, par exemple, eh ben, on peut rejeter la petite case, la petite étiquette, le tiroir « femme ». Et en même temps, si j'ai pas envie de, bah voilà, de correspondre à ces critères de ce que doit être une femme, je peux me retrouver dans une classe sociale de femme. C'est-à-dire que dans la société, de fait, si je suis vue en tant que femme, si c'est le petit F que je me tape sur ma carte d'identité, eh ben, ça va entraîner des discriminations, ça va entraîner un rapport spécial au monde. Et du coup, il y a aussi ce rapport du coup, aux identités sociales. Alors, ben voilà, le dossier de Timult, il aborde un peu tout ça avec des textes que, perso, je trouve plus ou moins intéressants. Je dois dire que, par exemple, le premier texte, moi, m'a particulièrement énervée parce que je trouve qu'il a une vision très, on va dire, un peu pour être méchante, hippie de l'identité qui serait plus un peu, comment dire... Vous voyez cette espèce de théorie un peu libérale, si on veut, on peut, on peut être ce qu'on veut, suffit de le vouloir, genre ne soyons pas enfermés dans des cases, etc. Sauf que justement, je trouve qu'il est à côté de la plaque sur c'est quoi l'identité sociale, quoi. Par exemple, même si je dis, oui, je m'en fous d'être blanche, c'est juste une petite case, etc. De fait, dans la rue, ben c'est pas moi qui me prendrais en priorité des contrôles d'identité, justement. Et que ben voilà nos appartenances sociales, dans quelle classe sociale on est né, de quel sexe, de quelles origines, etc. De fait, dans le monde où on vit, ça va influencer plein de trucs sur notre quotidien et notre vécu, et on peut pas mettre ça de côté. Oui, au risque de tomber en fait dans une espèce de vision un peu libérale, angélique, hippie, là, on peut tout être, on peut se construire soi-même, tous les blablas, là, sur la réalisation personnelle, machin, machin. Mais bon, en tout cas, dans ce dossier, justement, je trouve ça intéressant parce que ça pose un peu toutes ces questions avec des textes qui peuvent plus ou moins nous plaire ou nous parler. Mais voilà, quoi, ça pose plein de trucs là-dessus. Sinon, il y a aussi un dossier sur les stratégies qui pose les questions un peu entre rapport individu et collectif, ben, à l'intérieur des luttes, le rapport aussi au vivre ensemble, sur qu'est-ce qui nous rassemble dans des collectifs politiques, etc. Avec un texte que moi je trouve super chouette justement parce que ben, c'est un peu ce qui a été parlé un peu dans la présentation de Timult, c'est que je trouve que le ton il est justement pas que... que théorique en fait, ça mêle un peu du vécu en une ambiance qui est posée, de vécu quotidien, de discussion entre des personnes, où voilà, c'est agrémenté de détails sur le, je sais pas moi, le chauffage qui marche pas, sur les orgies de chocolat dans des lits en discutant de tout, de politique, etc. Et voilà, je trouve que aussi il pose plein de questions sur genre je sais pas, c'est quoi, le communisme, l'anarchie, l'individu, le collectif, etc., sans obligatoirement asséner des grandes réponses ou théories, mais je trouve qu'il fait super cogiter et qu'il est vraiment bien chouette. Sinon, un autre texte qui m'a bien plu, c'est le texte « Faire le bordel », qui pose des questions sur le travail du sexe et les perspectives de lutte, en parlant c'est écrit par des personnes concernées, par des putes. Ça pose des questions de quelle solidarité entre putes, justement aussi de cette réappropriation du mot pute qui à la base est vu comme une insulte et qu'on peut se réapproprier justement que des personnes ont envie de s'identifier comme ça pour lutter contre la stigmatisation. Ça parle de la répression étatique, policière, fiscale, morale qui est faite sur les prostituées. Il y a une analyse du projet de rouverture des maisons closes qu'on peut voir aussi comme une volonté de l'État de à la fois nettoyer les rues des prostituées, de garder le contrôle sur elles, un retour aussi au patronat, au contrôle capitaliste patronal, quoi, ça veut dire retour à un patron et avec tout ce qui va avec, qui est se faire taxer toute une partie des thunes, etc. Ça pose bien, je trouve, les questions de prostitution choisie ou subie, dans un cadre aussi... D'une société capitaliste où qu'on parle de toute façon de choix de travail, c'est toujours limité parce que on travaille entre autres pour pouvoir se loger, se nourrir, etc. Donc de toute façon le choix est toujours limité là-dedans. Donc un texte bien chouette que je vous conseille de lire. Et pour faire un lien avec des luttes actuelles. Je voulais vous passer une petite info sur les luttes des prostituées du quartier de Gerland à Lyon. Alors on vous en a déjà parlé dans d'autres émissions dégenrées. On sait qu'il y a une répression des prostituées qui est un peu partout, entre autres par la loi sur le racolage passif, qui fait que en même temps, la prostitution n'est pas considérée comme illégale, mais en même temps, elle peut se retrouver avec des amendes, des menaces de peine de prison, et puis qui vise pas mal avant tout les étrangères, les personnes en situation irrégulière, tout ça. Et il faut savoir que la ville de Lyon, elle s'est vraiment lancée dans la chasse aux prostituées, même avant cette loi sur le racolage passif. C'est un peu une longue histoire de harcèlement de la part de la mairie. Et maintenant, elle vise à faire disparaître les rues des prostituées qui travaillent en camionnette dans le quartier de Gerland. Donc elles ont décidé de s'organiser en collectif ensemble afin justement de s'opposer à ces mesures qui les plongent dans la précarité parce que ça compromet leurs conditions de taffer. Et qui, en même temps, vont les rejeter encore plus à la périphérie ou les éloigner des lieux de passage, ce qui, bien sûr, les met, ce qui est fait au détriment de leur sécurité, quoi. Parce que vous savez qu'elles se retrouvent plus en danger si elles sont dans des lieux hyper isolés. Donc, leur collectif appelle, entre autres, à signer une pétition. Si vous voulez soit avoir plus d'infos sur leur lutte, soit signer la pétition, vous pouvez taper sur Google « Cacher ces putes que je ne saurais voir » et vous allez tomber sur leur pétition en ligne. C'était donc un peu pour une petite info actuelle sur les luttes des travailleuses du sexe. Pour en revenir à Tumult, il y a aussi un texte politico-érotique qui est vachement intéressant aussi, qui questionne pas mal les histoires de validisme dans la sexualité, toute la notion de performance, d'efficacité qui peut être liée au sexe et qu'on peut lire dans certains récits, même de personnes qui visent à une déconstruction de la sexualité, etc. Et ce qu'on entend par validisme... c'est ça, c'est un peu le corps posé dans son idéal, sain, efficace, performant, mobile, valide, sans handicap, etc. C'est un texte qui s'appelle « Vos désirs sont des échos ou des égaux ». qui est hyper intéressant là-dessus. Sinon, il y a aussi des notes de lecture, dont une de Prison pour femmes d'Angela Davis. Alors, Angela Davis, c'est une membre des Black Panthers et du Parti communiste américain, qui a été incarcérée dans les années 70. Et ce texte, il pose à la fois une analyse de l'oppression spécifique des femmes dans le système carcéral, tout en ayant une vision globale d'abolition des prisons. Et aussi qui pose des questions sur comment peuvent se faire les liens entre l'extérieur et l'intérieur, comment faire des liens dans les luttes avec les prisonnières. Il y a aussi dans les notes de lecture des citations d'un texte de Christine Delphi, donc une sociologue féministe, avec une petite citation que je trouve chouette. Ce n'est qu'en imaginant ce qui n'existe pas qu'on peut analyser ce qui est. Qu'elle pose là comme exemple sur les rapports de domination homme-femme, mais qu'on peut aussi appliquer à l'analyse de plein de sortes de rapports de domination. Et sinon, il y a des mots croisés hein, dans Tumult. Moi, je les ai faits hier et ils sont carrément bien, ils sont pas si faciles. Hein, j'y ai passé un certain temps. Enfin, je sais pas vous, votre niveau dans les mots croisés, mais j'aime beaucoup cette mode des mots croisés dans les revues. On va dire militante entre autres. Alors je crois que ça a un peu fait le tour de qu'est-ce qui se présente dans ce tumulte numéro 3. Et tout ce que je peux vous conseiller, c'est de le lire et puis de vous faire un avis par vous-même. Dans l'interview, il y avait dit les endroits où se le procurer, entre autres à Grenoble. Mais vous pouvez aussi toujours, d'ailleurs, si vous avez des questions sur d'autres choses dont on parle dans l'émission, nous écrire à Dégenré. Donc c'est Dégenré, Degenr2e, @pimienta, pimienta.org. Et maintenant, notre émission arrive vers sa fin, alors on va vous donner quelques petites infos.
Alors, le 15 octobre, à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieu, à Grenoble, il y a une rencontre-débat dans le cadre de la Marche mondiale des femmes autour des questions de la dette, qui entraîne depuis 20 ans la suppression des services publics, avec de lourdes conséquences en priorité pour les femmes. Alors, ça, c'est à partir de 18h, et ça va durer toute la soirée, je pense. Et le vendredi 22 octobre à 20h à Antigone, qui est un café-bibliothèque-librairie autogéré qui se trouve 22 rue des Violettes, il y a la deuxième soirée Let's Talk About Sex, qui est une soirée pour échanger sur des questions intimes et de sexualité, sans jugement, sans tabou. Et il y aura des animatrices et des animateurs de calibre, l'émission de Libre Antenne, autour des questions de corps, d'amour et de sexualité, qui passe tous les jeudis, toujours sur Radio Kaleidoscope, de 20h à 21h. Que vous avez déjà peut-être entendu. Ça c'est pour les infos grenobloises des prochains jours. Et on va se quitter sur un petit morceau de musique.
Pour finir, on voulait vous passer un morceau de la chanteuse Kazé, qui est une rappeuse. Avec des textes hyper classe, un peu qu'on voit du gros, quoi, sur pas mal des questions de racisme, de néocolonialisme, de stigmatisation des banlieues, etc. Le morceau qu'on voulait vous passer, c'est Libérer la bête. Et il fait pas mal écho aux chasses actuelles contre tous ceux et celles qui dérangent l'ordre établi, que ce soit la stigmatisation, la chasse aux Roms, la chasse aux sans-papes, la chasse aux putes, aux personnes racisées. Ça fait aussi écho à ce qui se passe, par exemple, dans le quartier de la Villeneuve, quoi, la stigmatisation entière d'un quartier, au quadrillage militaire fait par les keufs, etc. On va vous laisser écouter ce morceau et libérer la bête, quoi.
brebis rebelle qui doit rejoindre le bétail. Mon nom est un détail et personne ne m'appelle. Qui aura ma gueule sera décoré d'une médaille, deviendra un modèle, une idole pour la foule, un symbole, le cow-boy qui a vaincu le cobaye. Mis dans la corbeille, la queue et les oreilles, cloué au portail, le trophée de la bataille. On me croit criminel, anormal, me voit dans les tunnels, me cherche dans le canal, avec fusil et jumelles. Il faut me faire mal, là le journal est formel, au signal, viser la moelle, donner la mort intentionnelle. Rien n'est rationnel, la chasse est nationale, passionnelle, prise en charge par des professionnels. Éliminer l'animal, qu'il soit mâle ou femelle, salir sa gamelle avec sa pisse ou ses semelles. Et la bête, effacer sa tête, essayer d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes, et ne nier même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérer la bête, effacer sa tête, essayer d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes, et ne nier même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Et elle est sûre d'elle, hors d'elle, adore le bordel. Ses morsures sont mortelles et ses blessures morcelles. Et elle sort elle, le crotal avec son venin fatal. À coup survenir à elle, c'est périr d'une mort sale. Elle harcèle, dort seule, protège son épine dorsale. Et à elle seule, représente le mal universel. Pille toutes vos parcelles, vos portions, vos pincelles. Faites attention à celle que la cruauté ensorcelle. Scellez les arrières-salles, les nacelles, les passerelles, les quartiers, les cartels, les écoles maternelle. Quelles sont les nouvelles, ces rituels éventuels? Où va-t-elle, où vit-elle? Ces va-et-vient habituels, ces questions sont vitales, essentielles, capitales. Son habitat naturel, ses réflexes sont mentales, sa pensée bestiale, sa colère officielle. Vous la reconnaîtrez, son pelage est spécial. Et la bête, effacer sa tête, essayer d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes, et ne nier même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérer la bête, effacer sa tête, essayer d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes, et ne nier même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérez-la. Ils ont lynché la curiosité tropicale. À la verticale, par les cervicales, ils ont lynché la curiosité tropicale. Et sa fin fut sans appel et radicale, sans autopsie ni même avis médical. On la montre, on l'étale, sa mort est un régal. Et de porte en porte et d'escale en escale, on balance poubelle, insulte, matière fécale. La foule est immense, cruelle et inamicale. La charogne, le chacal finira dans un bocal. Mais au fond, quel est le mobile de cette cabale?